16h, 17h, chacun son tour, avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans chacun son tour. Ça rime, t'as vu? À chaque fois. Ouais, j'aime bien quand ça rime. Bon, alors, chef Enzem, bon, de retour pour une nouvelle semaine de recettes.
Tout à fait.
Hein, des petites recettes de la flemme.
Des petites recettes.
Anti-gaspi, souvent.
Hein. Souvent, ouais. Moi, j'ai placé ce ramadan sous le signe de l'anti-gaspi. C'est ce que je fais sur mes réseaux sociaux désormais. Plutôt que donner des recettes de ramadan, je donne des recettes de reste de ramadan pour le lendemain. Parce que c'est censé être un mois où l'on gaspille un peu moins, où l'on pense à ceux qui celles et ceux qui n'ont pas à manger, les étudiants, les reconvertis aussi qui font ça peut-être tout seuls, qui n'ont pas les grandes tablées. Donc un ramadan, voilà, que j'ai envie de placer sous le signe de l'anti-gaspi aussi, comme les autres.
Hein, bah, on aime ça, tes recettes, tu sais bien, on aime ça. Alors, aujourd'hui, tu vas nous emmener dans ton univers Disney. Je ne savais pas que tu étais un peu midi-lettre comme ça.
Comme tout le monde, on a tous regardé les Walt Disney.
Bah, mais bien sûr, bien sûr. Moi, oui. Moi, le premier, et moi, j'ai adoré, évidemment. Et parmi tous ces Disney, c'est vrai qu'il y en a un qu'on aime particulièrement parce qu'il y a des animaux dedans.
Ouais, puis c'est surtout une scène qu'on aime particulièrement. C'est la fameuse scène où...
Alors, La Belle et le Clochard, on va déjà citer le film.
Exactement. Et là, quand je parle de La Belle et le Clochard, vous vous rappelez tous d'une scène.
La scène du spaghetti.
La scène du spaghetti où les deux...
Le bisou.
Voilà.
Donc La Belle et le Clochard qui mangent le même spaghetti et puis à force de manger le même spaghetti, ils se retrouvent contre bouche. Enfin, voilà. On dit gueule contre gueule pour les chiens.
Pour les chiens, voilà, les animaux. Hein? Mais
là, c'est plutôt bouche contre bouche. Hein, ils sont tellement personnalisés dans le dessin animé.
C'est ça. Et moi, ce qui m'avait retenu, ce qui a marqué ce souvenir, c'est ce plat qui me donnait envie. Je sais pas pourquoi. C'était un gros plat convivial de spaghetti à la sauce tomate, de boulettes de bœuf. En italien, on va appeler ça polpette.
Ouais, les polpette.
Je crois, hein, si mon accent n'est pas bon.
Non, c'est tout à fait ça.
Voilà. Et puis nous, on appelle ça boulette de bœuf. Donc, avant de lancer cette sublime et culte recette, j'ai envie de lancer un jingle.
Absolument. On est parti pour le jingle du chef Enzem et pour la recette des boulettes de viande sauce tomate avec spaghetti façon.
Belle et le Clochard.
Mais oui.
Les recettes de la flemme du chef Enzem.
Bon alors, le jingle, on aime toujours, hein, le jingle du chef Enzem.
Ah, moi je suis toujours aussi fan, j'espère qu'il y sera encore pour de nombreuses années.
Alors, des boulettes de bœuf et spaghetti façon La Belle et le Clochard.
Exactement.
Pour les amoureux de Disney et puis les amoureux des boulettes comme moi.
Et puis les amoureux de ceux qui n'ont pas encore beaucoup de temps pour cuisiner, peut-être on rentre, sachant qu'on va passer à l'heure de 19h à 20h.
Oui, ça va, on va passer à l'heure d'été bientôt. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, ce que l'on peut faire...
C'est peut-être ce week-end même, non? Je ne sais pas.
C'est les 10 derniers jours.
C'est les 10 derniers jours, d'accord.
Bon. C'est les 10 derniers jours de Ramadan, je crois, hein, de ce que j'ai vu.
En général, ça se fait un week-end, oui, de mémoire. Bon. Hein.
Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, mais qui ont quand même un petit peu de temps, ces boulettes sont quand même très rapides. Hein, c'est-à-dire que soit on part sur une sauce tomate qu'on achète en bocal, parce que c'est pas la saison des tomates, on le rappelle, donc on va se faire des tomates soit en bocal.
Et on rappelle qu'il vaut mieux des tomates en conserve qui ont été récoltées
à maturité,
de saison que mettre des tomates fraîches hors saison.
Exactement, c'est le plus logique au monde de fonctionner ainsi. C'est ce qu'il y a de plus logique. Parce que voilà, on n'encourage pas à prendre des tomates venues par avion d'un autre pays. Et au contraire, on mange des tomates qui sont de saison, qui ont été récoltées, qui ont été faites chez nous en France et qui ont plus du goût.
Donc, la tomate qui est venue par avion, elle est à 6,50 du kilo, donc on n'en veut pas.
Exactement. Donc voilà, il y a aucune stratégie, aucune malice à fonctionner ainsi. Donc pour cette sauce tomate et cette boulette, on va commencer par les boulettes. Très très simple.
Allons-y.
Allez, pour donner à peu près 25 belles boulettes de bœuf, donc comptez un peu chez vous combien vous êtes, mais pour 25 boulettes, on va partir sur 500 grammes de bœuf.
Bon, 25 par rapport à mon appétit, c'est pour deux, quoi.
Ouais, c'est bon. Tu manges, non, tu.
Non, mais ça dépend de la taille des boulettes.
Ça dépend de la taille des boulettes, mais on va partir sur les boulettes classiques, hein, qu'on voit, ni les petites, ni les trop grosses, les moyennes, classiques.
Okay.
Donc, pour ces boulettes, pour 25 boulettes, comptez à peu près 500 grammes de bœuf. C'est vrai que dans la cuisine italienne, on aime bien y mélanger.
Ouais, donc, c'est petit format, là, on dit sur du boulet
moyen.
De 20 grammes.
Ouais, c'est du moyen, ouais. 25 grammes, exactement.
D'accord.
Tout à fait. Et c'est vrai que dans la cuisine italienne, on ne met pas que du bœuf. On mélange deux chairs de farce.
Ouais, alors je dirais même que souvent c'est veau et porc.
Et
exactement. Bœuf et porc, ouais,
exactement.
Dans la cuisine italienne. Mais moi j'ai fait bœuf et veau déjà et ça marche très bien.
Il y a une petite astuce si on veut donner ce petit goût boucané, un peu fumé, oui. Ou à cette astuce de bœuf, c'est
ce petit goût de ralouf.
C'est d'y mettre un petit peu de lardon
halal ou bacon halal qui a été fumé.
Ah hein, oui, on peut hacher, ouais, un petit peu de bacon halal.
Exactement,
ouais.
Ils mettent un petit peu, on met 100 grammes, hein, pas plus, sinon ça va prendre le dessus. Ou alors, on va récupérer l'intérieur d'une chipolata de dinde, hein, chez votre boucher préféré. On prend l'intérieur de la chair à saucisse et on enlève donc le boyau et on mélange ça avec son bœuf. Ça donne un peu de goût déjà à son bœuf.
C'est bien ça.
C'est pas mal. Hein, donc voilà, vous pouvez rester sur du bœuf pur si vous avez de quoi donner un petit peu ce côté boucané fumé. Partez sur ça. Ou alors, à la limite, un petit peu de paprika fumé. Voilà, pour tricher pas trop parce que c'est, faut pas qu'on le domine trop. Voilà. Ça, c'est pour vous donner des bœufs, des boulettes de bœuf qui vont sortir un petit peu des boulettes traditionnelles. Donc, pour 500 grammes.
Quel est le secret pour que les boulettes de bœuf ne soient pas sèches?
Eh ben, on y vient. Ah. On y vient. C'est très, très bien. Eh ben,
le secret.
Non, rien.
J'ai mis un petit bruitage.
Surtout que c'est pas moi qui a sorti la vanne, c'était toi.
Oui, bah oui.
Bon. Alors, le secret, effectivement, c'est de prendre son petit pain de la veille, son petit pain rassis ou son petit pain frais, et de l'humidifier avec un peu de lait ou de l'eau si on est allergique au lactose. Mais l'humidifier son pain de la vieille veille, pardon, oulala,
le pain de la vieille, c'est pas bien de voler du pain aux personnes âgées pour faire ta recette, s'il te plaît.
Alors le pain de la veille, donc on va humidifier avec un petit peu de lait, faut pas en mettre beaucoup de ce pain, et puis surtout faut faire attention à ne pas prendre les parties trop dures de ce pain, c'est-à-dire on va généralement taper dans la mie de pain parce que c'est
pas la croûte.
Ouais, parce qu'elle va être très difficile à intégrer après à la chair de bœuf.
Oui, puis ça va faire pas des grumeaux, mais comme des petites boulettes un peu. Ça fait faire des boulettes dans la boulette.
Exactement. Voilà. Donc la mie ou le pain de mie. Ou du pain de mie ou la mie du pain, mais pas trop. Encore une fois, comptez ça, ça tient dans une main, quoi. Ça va faire à peine. Si je devais donner l'équivalent d'une tranche de pain de mie, je dirais sur deux tranches de pain de mie pour 500 grammes.
Voilà. D'accord, super.
Deux tranches de pain de mie pour 500 grammes.
Oui, donc c'est juste pour donner le moelleux, on n'en met pas une tonne.
Exactement. Et surtout, une fois qu'on a mis.
Sinon,
trempé,
ça fait les boulettes Ikea qui n'ont pas trop de goût, là.
Tout à fait. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on les a fait tremper dans un petit peu de lait ou un petit peu d'eau, ben on les essore. Hein, on va pas les faire tremper pour les garder imprégnés tout ce liquide, parce que vous allez avoir des bœufs qui sont trop liquides, des boulettes qui sont trop liquides. Donc on les essore avec la main. Ensuite, on met ça dans notre saladier, du persil haché. Oui. Hein, du bon persil, ça peut être du basilic, mais quand ça sera la saison, là c'est pas la saison du basilic, mais quand c'est la saison du basilic, du persil ou du basilic, peu importe, donc persil, et ensuite du parmesan. Voilà.
Coriandre, peut-être pas quand même.
Ouais, alors là, on est à l'oriental.
Ouais, on serait à l'oriental, oui.
On serait à la spaghetti Bon.
Oui, c'est plus pour moi.
C'est plus pour vous.
C'est plus ma recette.
C'est pour toi. Donc, voilà. Je récapitule. Donc, 500 grammes de bœuf avec un peu de paprika fumé, de la chair à saucisse, un peu de lardon mixé, peu importe ce que vous voulez pour donner ce goût
boucané. Oui, puis si on a des restes de quelque chose, enfin, je veux dire, c'est ça que j'aime dans tes recettes.
Il y a pas de règle.
C'est quoi? Les portes sont toujours ouvertes, même les fenêtres sont ouvertes.
Exactement, les portes sont ouvertes, sont ouvertes.
Et on peut, il nous reste un petit reste d'ail haché, bim, on balance dedans, ça.
Exactement. Hein. Ah, mais il faut y mettre de l'ail, hein.
Ah, bah,
dans la recette. Bon. J'allais dire pour une petite gousse d'ail, mais très petite, attention. Mais quand on hache l'ail dans ce genre de recette, c'est pas de l'ail en morceaux qu'il faut mettre, c'est pas des grains qui vont craquer sous la dent. C'est une purée. C'est une purée d'ail qu'il faut. Donc, si vous mettez une gousse d'ail, vous la pilonnez, vous la broyez au couteau.
Ou de l'ail en poudre.
Ou de l'ail en poudre. Voilà.
L'ail, ce qu'on appelle l'ail semoule.
C'est ça. Parce que moi, j'ai un problème avec l'ail qui est réduit au couteau et écrasé. C'est qu'il reste des grains. Ça veut dire qu'on n'en aura pas partout et on va tomber des fois sur des grains désagréables. Ouais. Tandis qu'une purée va s'homogénéiser avec le reste de la préparation et on va avoir quelque chose de mieux dispersé. Ouais. Et on va avoir quelque chose de pas trop fort en goût. Donc, une petite gousse d'ail bien réduite en purée, sel, parmesan. Et le parmesan, pareil, il n'y a pas de règle. Vous mettez. Ou vous en mettez pas, mais c'est selon vous.
Oui, ou du grana padano.
C'est pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien en mettre. Ça va ramener un côté salin et ça va éviter de mettre trop de sel aussi également. Voilà.
Et vous faites pas comme chez Otakos, vous nous mettez pas du boursin, de la vache qui rit.
Si vous voulez vous régaler.
Parce qu'on fait des recettes simples, mais quand même, on reste un petit peu dans
respectueux.
Respectueux de la gastronomie, mon cher.
On fait pas un couscous au vin blanc.
Voilà, exactement.
Un couscous au vin blanc. Nous, de même, on va pas dénaturer des plats qui ont une histoire. Donc ça, c'est
important. Tu sais que ma belle-mère, qui est marocaine, la première fois que je lui ai fait un couscous.
Vous avez mis du vin blanc?
Non, pas du tout. Mais comme moi, j'ai l'habitude, tu sais, les bouillons très liquides, c'est pas mon truc. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire réduire un peu.
Ah, t'as fait réduire le bouillon, mais c'est pas grave, parce que j'avais fait le feu aussi.
Alors j'avais fait réduire un petit peu le bouillon et ma belle-mère m'a dit: ah, il nous a fait un couscous bolognaise. J'avais trouvé ça magnifique.
Mais en Tunisie le bouillon est très sirupeux.
Il y a du concentré de tomates, hein, en Tunisie.
Exactement.
Alors que c'est des tomates fraîches au Maroc et pas de tomates en Algérie.
Et puis surtout ils mettent de la pomme de terre en Tunisie, ce qui fait que la pomme de terre va créer une sorte avec l'amidon, ça va lier un petit peu la sauce. Donc tout ça mélangé,
ça va émulsionner.
Ça, c'est pas mal. Donc on en revient à nos petites boulettes parce que c'est mine de rien, c'est
qui commence à faire faim.
Oui, commence à faire faim. Les boulettes, une fois qu'elles sont faites, on n'hésite pas. Et j'ai une petite astuce, moi, au-dessus du saladier, hein, on a mis le persil, le parmesan, la petite gousse d'ail, les boulettes, enfin, le bœuf haché, le sel. Et au-dessus de cela, on n'hésite pas à mettre ses deux mains au-dessus du saladier, les enduire d'huile d'olive. L'excédent va couler dans le saladier. Et nous, on va pouvoir malaxer avec les mains très propres. La
oui,
cuisine, c'est
on
les
met
mains
des petits gants latex.
On peut mettre des gants. Moi, j'aime bien faire ça aussi parce que tout le monde n'a pas de gants à la maison. Mais j'aime bien faire ça aux mains propres, à l'ancienne, et qu'on malaxe ça enduit d'huile d'olive. Déjà, ça ne colle pas aux mains et c'est surtout que ça donne du goût avec l'huile d'olive.
Ouais.
Donc, on malaxe ça bien si on n'a pas de gants. Et surtout, on fait ça longtemps.
Et si vous ne vous lavez pas les mains, ça donne encore plus de goût, mais
ouais,
pas le bon. Hein.
Ouais, voilà. Bah, là, du coup, ouais. Si vous voulez respecter votre corps et vos invités, c'est les mains propres. Hein.
J'ai pas besoin
de le dire normalement, mais la bonne cuisine, c'est le respect des invités et le respect voilà, de la cuisine, c'est toujours les mains propres. Ça, c'est pour moi, c'est le béaba. Donc, on malaxe et on fait ça longtemps. Il suffit pas juste d'homogénéiser les ingrédients, il faut malaxer longtemps pour créer une certaine harmonie entre les goûts. Donc, on malaxe bien. C'est ça le secret. C'est pas juste de mélanger et de faire une farce. On malaxe, ça peut durer quelques minutes. D'accord? On façonne nos boulettes toujours avec les mains un peu huilées.
Okay.
Parce que du coup, on va créer une pellicule d'huile autour de la boulette qui va caraméliser à la cuisson.
La réaction de Maillard.
Et surtout, ça va encore donner du goût et puis nos mains ne colleront pas. Petite astuce pour des boulettes régulières. La petite cuillère à glace, ça vous fait des boulettes de même diamètre. Si elle est trop grosse, bien évidemment, on évite la boulette,
oui,
la cuillère à glace.
Il y a plusieurs tailles.
Voilà. Si vous en avez de taille moyenne, c'est parti. Vous la prenez. Comme ça, vous avez des boulettes qui font le même grammage. Ça, c'est la petite astuce.
Oui, comme ça, elles cuisent toutes,
de manière homogène. Exactement.
Oui.
Et puis surtout, c'est plus beau, hein. Sur un plat qu'on va dresser pour tout le monde, on a des boulettes qui font la même taille. Ça fait un peu professionnel.
Des boulettes de compète.
Voilà. Exactement. Et alors, dernière chose, on va cuire ces boulettes de manière astucieuse. C'est-à-dire, poêle bien chaude, fumante, un petit peu d'huile quand même, surtout si vous utilisez une poêle en aluminium,
oui,
ou en inox, peu importe. Donc un peu quand même de matière grasse. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de les poser une par une pour pas faire redescendre la température de la poêle. Parce que si vous mettez vos 25 boulettes d'un coup, ça va faire redescendre la température de la poêle. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bouillir vos boulettes.
Ouais, et avant de remuer, il faut attendre que la poêle remonte en température.
Exactement. C'est pour ça qu'on les pose une par une. Comme ça, on descend pas la température et on fait ça en forme d'escargot, une par une. Et vous allez voir que si vous ne les touchez pas, elles vont commencer à croûter. C'est-à-dire, une fois posées,
se décoller, elles vont pas attacher.
Exactement. Vous ne les touchez pas au début. Ça sert à rien tout de suite faire le geste de la cuisine, là, tout de suite les remuer. C'est, on attend la coloration, la petite croûte. Et quand
et
on
la
vient
de la boulette, c'est le goût, hein.
Et c'est ça. Oui. Et surtout, ça se dépose sur la poêle. Et une fois que c'est fait, là, vous pouvez faire le petit geste de cuisiner. Vous pouvez les tourner un petit peu et attendre cette réaction. La sauce tomate, c'est très simple. Un sofrito, si
comme
vous...
dit le chef Michel Dumas, là, ce youtubeur génial canadien, tu sais, enfin, qui est français, mais qui vit au Canada. Ça tourne-retourne. Après, tu fais tourne-retourne.
Je crois que j'ai entendu parler de ça. Ouais.
Ah oui, il est génial, ce chef.
Exactement. Alors,
c'est le chef Enzem canadien, tu sais.
Non, ouais. Ah ouais, il faudrait que je regarde. Mais j'ai déjà entendu parler de lui.
Mais lui, il fait tradi-tradi, hein, tu verras.
D'accord. D'accord. Bon, les boulettes sont prêtes, on les réserve de côté. Et là, on passe à la sauce tomate. Alors, comme je vous l'ai dit, soit vous l'achetez toute prête, soit vous avez des tomates pelées en conserve. Et à ce moment-là, avec une petite. Moi, j'aime bien faire un sofrito. Sofrito, c'est la base de la cuisine italienne, c'est-à-dire une branche de céleri, une carotte, un oignon. Et tout ça, passer au mixeur pour gagner du temps. Faut pas en faire une purée, mais garder des petits morceaux.
Ouais, petite brunoise, ouais.
Voilà. Mais au mixeur, ça va. Ça va cuire plus vite. Vous mettez ça dans la poêle. Ça va récupérer les sucs de cuisson. Ça compote légèrement quelques minutes. Et vous versez votre sauce tomate, tout simplement. Hein, avec,
sauce tomate, coulis tomate, ou tomate épaisse.
Et vous avez une base de sauce tomate maison, mais sinon, vous pouvez les acheter en bocal. La dernière astuce. On cuit ses spaghettis. On verse une partie de cette sauce tomate.
Al dente, bien sûr.
Une partie de ses spaghettis. Qu'on va mettre dans la sauce tomate, mais on garde toujours un peu de sauce tomate pour nos boulettes.
D'accord.
Comme ça, on mettra ça au-dessus du saladier.
Et oui, voilà. On va finir de cuire un peu dans la sauce.
Bon,
merci pour cette magnifique recette. Bon, mais restez avec nous puisqu'on va recevoir notre invité du jour, nos chroniqueurs pour plein d'adresses. Et puis, Nabil, je te laisse repartir à tes fourneaux pour nous concocter une belle recette pour demain. Et je crois que demain, tu veux nous emmener en Kabylie. Hein.
Ouais, on va chez moi, en Kabylie.
Allez.
Demain.
Bon, c'est parti, à demain et restez avec nous, on se retrouve après la pause dans Chacun son tour.
Chacun son tour revient dans un instant. 16h, 17h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Il est bientôt 16h23 sur Beurre FM et on est de retour dans Chacun son tour. Le chef Enzem est parti nous mitonner d'autres recettes hein, pour les jours à venir et ce jusqu'à la fin du Ramadan. Hein. Et en attendant, j'ai été rejoint par une partie de l'équipe puisque, bon, comme souvent Salah, de la brigade est dans les embouteillages. Je lui fais un petit clin d'œil parce que je sais qu'il nous écoute sur la route. Salah, t'es en retard. Que se passe-t-il?
On change pas d'équipe qui gagne.
Ben oui, tout à fait. Alors, un invité du jour, le retour. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bon, ça fait longtemps que moi, j'étais pas là. Comme vous le savez, j'avais quelques petits empêchements personnels. Mais on est ravis de le retrouver. C'est notre invité du jour. C'est Julien Durand. Salut, Julien Durand.
Bonjour à tous. Bonjour, Manuel.
Alors, je devrais dire maître foie gras maintenant. Hein.
Exactement.
Parce que là, maintenant, on te connaît plus sous ce nom-là que sous ton nom, chef Juju. Hein.
On est passé au step supérieur, là, ouais.
Absolument. Bon, on va parler de tout ça dans un instant, avec nous aussi Bilal de Womogre.
Wesh, on mange gros.
Eh oui, bah où tu veux. J'ai envie de dire. Et puis avec nous, notre petit poil à gratter, Iman.
Hello.
Iman News, journaliste et podcasteuse, qui nous fera un petit billet d'humeur tout à l'heure. Quand elle a des colères, elle vient crier sa détresse sur Beurre FM, Iman.
C'est vrai, je me libère.
Voilà. Non mais c'est vrai, souvent on partage les mêmes révoltes.
Hein, exactement.
Donc il n'y a pas de problème. Alors, invité du jour, Julien Durand, maître foie gras. Alors écoute, franchement Julien, ça cartonne le foie gras en ce moment, hein. Tu es devenu le comment dire, le pape du foie gras halal.
C'est mon idée, c'est mon but, c'est en tout cas la direction dans laquelle je veux aller. Et c'est vrai que vous m'avez gentiment ouvert les portes.
On va dire le Mbappé du foie gras halal, ça parlera plus aux auditeurs que le pape.
ça me plaît. Oui. Mais c'est vrai que suite à votre ouverture de porte il y a maintenant 3-4 ans, je fais que grossir et m'améliorer dans mes performances de maître foie gras.
Et à nous, tu sais, on est toujours fidèles aux gens qui font du bon boulot. Donc
ouais, voilà. Vous avez été précurseur et vous avez eu le nez en me disant lance-toi et vas-y, va au bout de ton truc. Et je peux vous annoncer que enfin cette année, mes projets se concrétisent.
Ouais, plein de choses. Hein.
Et je vais voir la vie un peu différemment, je pense. Et je veux être le numéro 1 du foie gras français halal. Et pour cela, eh ben, je me donne les moyens.
Bah, tu l'es pas déjà, plus ou moins, non? On n'en est pas loin,
je sais pas, mais.
Non, mais moi, je parle en qualité, hein. Tu sais que moi, la quantité. Voilà. Alors, la quantité, ça t'intéresse parce que c'est ce qui te fait vivre, mais moi, la qualité, c'est number one, hein.
Niveau quali, j'ai réussi à trouver un fournisseur, un fermier assez sérieux dans le Gers et qui me propose des produits éthiques et non maltraités, qui sont non gavés, mais pas gavés comme on peut le voir sur les réseaux. Et ça me permet d'avoir un produit sain et d'un produit que musclé, en fait. Et j'arrive à faire, Manu, tu sais, du foie gras sans gras, quoi. C'est-à-dire que je fais du foie gras avec une cuisson à thermoplongeur. Bon, moi, j'ai une culture.
T'as un petit labo maintenant. Hein,
j'ai un petit laboratoire, ouais. Aussi. J'ai une culture de la gastronomie française. J'ai un passé. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est ma passion.
Oui, d'ailleurs, une question, parce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, comment t'es passé de chef de cuisine du restaurant du musée Jacques Marandré à maître foie gras? Explique-nous.
Le foie gras, il est chez nous ancré depuis des générations en générations. On s'est passé le relais et je devais reprendre ce relais-là. Et étant converti musulman, je ne trouvais pas un équivalent à m'apporter. Enfin, je trouvais pas de bon produit,
pas le goût
en fait.
Du foie gras en halal.
Et
quoi.
Je me suis dit, bah, tape-le, essaye-le, et vas-y, mets-toi dedans. Et maintenant, ça fait que 3-4 ans que je suis là-dedans. Et que, bah, chaque année, on modifie, on se perfectionnise. Et comme tu l'as dit, ouais, j'ai pris un laboratoire cette année, je me suis émancipé pleinement, j'ai eu cette chance d'avoir une publication sur la chaîne On mange quoi via les réseaux sociaux, qui m'a permis de...
Qui t'a boosté.
Qui m'a boosté, qui m'ont doublé en followers. Enfin bref, j'ai pu mettre un peu ce que je voulais faire en place.
Bah, c'est preuve que c'était sur le bon créneau. Le bon foie gras halal, il y a de la demande.
Voilà, mais j'avais pas forcément les moyens. Là, je me suis entouré cette année d'une super personne qui va m'aider pour m'émanciper tout simplement.
Oui, t'as même un manager.
Ouais, un peu comme ça, c'est un vrai manager.
Un impresario, monsieur.
Le salut, c'est Sofiane et on va monter un truc carré ensemble. Et voilà, j'ai eu des belles rencontres. J'ai rencontré la maison Grandiose, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont tendu cette main.
Ouais, maintenant, moi, je peux plus appeler Julien directement, faut que j'appelle son agent.
Et qui m'ont aidé. Et voilà, après, franchement, pour revenir à ta question, c'est vraiment une passation de pouvoir entre ma grand-mère, ma mère, père son âme, que j'ai perdu au 1er janvier, qui m'a donné cette envie et cette
force-là
aussi.
J'ai appris ça.
Et je me bats maintenant pour elle, pour lui montrer qu'elle peut être fière de moi de là-haut. Et vraiment, c'est un fil conducteur pour moi. Et je veux prendre cette part-là. Et j'ai des enfants, donc j'ai essayé de transmettre cela aussi à eux pour pouvoir en vivre, je sais pas, mais pour pouvoir proposer un produit de qualité, parce que c'est un vrai produit de noblesse, pardon, qu'on nous on retrouvait à l'époque en fin d'année. Et il y avait un cérémonial, il y avait toute une histoire autour du foie gras, et que j'essaye de retransmettre maintenant dans ma culture musulmane, mais voilà.
Oui. Alors, justement, comment tu nous, pour entrer un peu plus dans, pas dans le vif du foie gras, mais dans le vif du sujet, comment tu sélectionnes déjà les foies crues pour ton foie gras?
L'idée, c'est que je suis pas non plus, mais je sais qu'il faut pas les prendre trop gros. Donc, moi, je les prends d'une manière assez régulière. Donc, ils sont tous entre 350 à 450 grammes.
Ah oui, c'est des petits foies. Donc, c'est des petits foies qui sont pas malades. Voilà, c'est des foies qui sont gavés, mais pas malades.
On l'appelle l'extra frais.
D'où
la compatibilité halal. Après, on pourrait faire avec d'autres produits, mais moi, c'est vraiment de l'extra frais français dans le Gers, élevé et abattu en France. Ils ont grandi pendant 7 à 8 mois, ils se nourrissent quand bon leur semble, et ils ont un petit
foie. Oui, ils se gavent eux-mêmes.
On les aide un petit peu, je le reconnais. Mais pour avoir connu des foie gras gavés et des foie gras qui le sont moins chez moi, il n'y a pas photo. On est à comparaison d'un point tendu. Et on pourrait comparer à un foie gras gavé avec deux points. Ça veut dire un gavé fait 900 grammes, le mien ils font 350, 400 grammes, ils font deux fois moins gros.
Ouais. Alors tu personnalises tes foie gras avec des petites surprises cachées à l'intérieur. Hein, alors quelle a été ton inspiration derrière la création de saveurs de tes inserts figues, pistaches, dattes, oignons confits.
C'est ça, il y a pas de limite. Je me souviens encore très bien de toi qui me disait mais lance-le même au cacao. Il y a des grands chefs français qui le font.
Moi qui t'ai dit ça.
Ouais.
Je suis malade.
Et pour l'avoir testé, voilà, il n'y a pas de limite à ça. Moi, je me suis centré sur les cinq les plus connus, à l'oignon, à la figue, à la datte.
Pour une fois que quelqu'un m'écoute, je suis ému, tu sais.
À l'oignon, à la figue, à la datte, au piment d'Espelette, c'est mon nature à moi, et je le fais avec une brésure de truffe aussi. Mmh. Ça fait cinq parfums. Dans ces cinq parfums, on peut les associer dans une box. Enfin, je me suis éclaté, je me suis vraiment amusé, et j'essaye de vous proposer le meilleur du foie gras qu'on peut trouver actuellement.
Bah, je réitère, hein. Essaye le chocolat.
On a essayé chocolat, j'ai essayé à la vanille, j'ai essayé à la mangue. Il n'y a pas de limite en fait.
Tu sais, il y a un truc aussi, moi, que j'ai fait une fois. Alors, c'est super long, hein. Bon, à commercialiser, c'est compliqué, mais pour faire ça à la maison, pour s'amuser, tu sais, c'est avec la cabosse extérieure du cacao. Mm-hmm. Et tu prends des petits morceaux de foie cru, hein, mm-hmm, que tu mets à l'intérieur de la cabosse, et tu les ficelles, ou tu mets un petit peu de film alimentaire, et tu cuis ça à la vapeur douce, tu sais.
Ouais.
Et ça te fait des petits bonbons, tu sais, tu les ouvres, donc le foie gras, il a pris la forme de la cabosse.
D'accord,
il a pris un petit bout de cacao, c'est magnifique.
Ah, c'est sympa comme tout. Voilà, après on associe ça avec une confiture de maison, de châtaignes, de figues et plein de belles choses, voilà.
Bon, alors est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur tu fais des box foie gras, qu'est-ce qu'elles contiennent exactement?
Alors, c'est dans un futur projet. Là, t'es parti un petit peu plus loin.
Non, mais attends, je les ai vus.
Alors,
sur ton Instagram, la petite box.
Il y a une box, mais en fait,
c'est un assortiment de mini foie gras.
Ouais,
c'est ça.
Alors, la box foie gras, c'est les cinq.
Multi foie gras.
C'est les cinq parfums qu'on a, que je vous ai énumérés juste avant. Avec, on associe donc la confiture, et on a un super bon pain dans la commune où je travaille, qui a été élu meilleure boulangerie-pâtisserie d'Île-de-France en 2021. Et voilà, on l'associe donc dans une box gourmande pour inviter, pour offrir.
Bon, bah c'est une bonne entrée en matière pour découvrir tes produits alors.
C'est une super entrée en matière, ouais. Bon. Après,
Iman a une petite question à te poser.
Moi, je veux que tu puisses m'éclairer et qu'on puisse arrêter le débat une bonne fois pour toutes entre moi et mon mari, parce que c'est un sujet de dispute.
Ouais. D'après toi, ça y est, encore des problèmes.
Comment est-ce qu'on mange correctement le foie gras?
Moi, je vous le préconise de le manger à température ambiante. Ça veut dire qu'il faut le sortir une bonne demi-heure avant.
Merci. Et comment tu le tartines? Est-ce que tu le tartines
alors,
sur une...
l'appellation...
Ah non, alors
tartiner, non.
On tartine pas le foie gras.
Ah pardon,
alors là,
pardon. Ouais. Comment on dit alors?
Tartinade,
c'est tranche épaisse. Attends, quand tu fais, pour reprendre tes termes, une tartine de foie gras, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le pain ou c'est le foie gras?
C'est le pain.
Tu t'es grillé.
Le pain, c'est important chez moi.
Voilà. Donc on n'écrase pas le foie gras parce qu'il y a une texture aussi, et surtout ce qui est intéressant, c'est le foie gras. On prend un bon pain d'ailleurs, comme le dit Julien, bien avec une croûte bien croustillante. Hein. On prend pas le pain d'il y a 3 jours qui est resté dans un sac en plastique et qui est.
Ah oui, alors les petits blinis là,
non.
Des
photos passées avec du pain de mie,
mon foie gras, ça me fait mal au cœur. Non, ça, les blinis, au foie gras, c'est le brunch au tacos, ça, c'est pas,
c'est
ça,
réel, ça, ça, ça n'existe pas. Pain aux noix, pain ce que vous voulez, légèrement toasté, donc ça fait un choc thermique un peu tiède, avec le foie gras légèrement à température.
Il faut qu'il y ait de l'épaisseur, on fait pas des fines brochettes, etc.
Une épaisseur de 0,5 cm à peu près.
Ouais, au minimum.
Après, plus la gourmandise et puis on peut augmenter. Mais voilà, il faut vraiment le monter en tout cas en température. Et moi, je vous le préconise de sortir une demi-heure avant avec une pain légèrement toasté. Ça fait un contraste un peu chaud et froid avec une petite fleur de sel à l'envoi, un petit coup de moulin. Ma petite confiture qui va bien avec, donc c'est une confiture maison à la figue avec un peu de cannelle.
Ouh, vous
et
allez
je pense que là, on peut y aller.
Bah en tout cas, vraiment merci à toi. Hein, parce
voilà,
que
Emmanuel est en train de décéder.
Non, à chaque fois.
Vraiment merci à toi, parce que de trouver justement du foie gras à halal, quand, comme toi, on est converti, c'est très dur. Quand on a l'expérience d'en manger.
Bon, validé aussi par Bilal de Womogre.
J'avais ce défi, j'ai essayé de le relever, on va le relever, et je sais que cette année va être une année charnière pour moi, puisque j'ai pas mal de projets, food truck, marché ambulant, enfin je vais plus m'arrêter.
Ah. Bon, Juju, on a chef Julien, maître foie gras, pardon. Pardon, maître.
Non.
on va revenir parce que t'as encore plein d'autres actus, etc. Ouais. Hein, et puis des petites questions à te poser parce que nos auditeurs, nous on te connaît, mais même moi qui te connais, j'ai encore des questions à te poser et puis nos auditeurs se posent des questions aussi. On va avancer un petit peu dans le programme. On va revenir au foie gras dans un instant. On va parler avec Bilal des secrets d'Azalée. Les secrets d'Azalée, donc, qui sont... Alors, on a déjà reçu la maison Azalée, qui fait des pâtisseries assez exceptionnelles, notamment les éclairs. Mais on va parler, là, des secrets d'Azalée. Donc, c'est le centre de... Tu vas nous parler du centre de formation de la maison Azalée.
C'est exactement ça. C'est un centre de formation qui a été mis en place par la maison Azalée. Alors, comme tout le monde connaît le succès de maison Azalée, de Adam Sedic, qui a justement eu trop de prix, meilleur éclair et deuxième meilleur flan d'Île-de-France, meilleure galette et deuxième croissant du Val-d'Oise. Donc l'équipe de Maison Azalée, ce qu'elle s'est dit, c'est que ça serait bien.
Ils sont arrivés premiers. Alors attends, parce qu'au niveau des éclairs aussi, ils sont arrivés au niveau français, national, ils sont arrivés premiers et deuxièmes.
Ouais, c'est ça.
L'apprenti et lui, premier et deuxième.
Exactement. Bon. C'est vrai qu'on a tendance à oublier de mentionner l'apprenti, mais l'apprenti aussi, il y a quelque chose. Et non, et du coup, en fait, ce qu'il a décidé de faire, en fait.
Adam dit même, l'apprenti est arrivé premier et moi second, mais je l'ai laissé gagner.
En vrai, je pense pas.
On saura jamais s'il dit vrai ou pas.
En vrai, je pense pas, mais parce qu'il aime bien des fois faire le modeste, mais dans la chambre, pour le coup, je pense pas. Et du coup, non, alors ce que l'équipe a décidé de faire avec Monsieur H, voilà, parce qu'on l'appelle comme ça, qui est aussi l'associé de Adam, ils ont créé Au Secret d'Azalée. Alors, Au Secret d'Azalée, c'est quoi? C'est un centre de formation qui n'est pas justement comme les autres, qui donne la possibilité à des personnes qualifiées ou non de pouvoir justement avoir accès à des formations en pâtisserie avec des personnes qui sont qualifiées, connues, comme justement il y a Adam Sedic, voilà, que j'ai mentionné juste avant, Christophe Pizzera, il y a aussi Adrien Dermine avec qui j'ai pu échanger et la formation s'est super bien passée.
Ouais, et c'est aussi bien des formations pour débutants ou expérimentés,
on peut
le financer avec son CPF.
Voilà, c'est ça, c'est éligible au CPF, donc voilà, c'est toute personne, parce que généralement dans les formations on le voit, parce qu'on est dessus de temps en temps, et il y a des personnes des fois qui viennent juste améliorer leur qualité justement et leur travail, leur connaissance, voilà, exactement.
Alors justement, ces sessions spéciales, parce qu'il y a tout un éventail de formation, mais il y a des sessions hyper spécialisées en viennoiserie, en trompe-l'œil, en layer cake,
il y a aussi brunch,
en éclair.
En éclair, ouais. Il y a aussi les brunchs. Et là, justement, les formations qui arrivent, c'est celle de Adam, et celle du trompe-l'œil de Christophe Pizzera, qui est extrêmement attendu.
Ah. Oui, alors je suis en train de me battre avec sur les horaires avec Fodil. On n'est pas d'accord sur l'ordre de la pub. Mais c'est toujours lui qui a raison. Hein. C'est lui qui a les manettes entre les mains.
Comme j'ai dit, moi je ne veux pas de problème, donc je les laisse décider.
Oui. Bon, tu sais, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est toujours Fodil qui a le dernier mot. Hein. Alors, c'est vrai que plus qu'une école, c'est un lieu de un peu de passion, d'expertise, parce que même si on est, on peut y aller si on est débutant, on peut y aller si on est. Bon, faut être passionné quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un coût, c'est pas des formations gadget, hein. Il y a un vrai truc, c'est 8 heures, c'est un vrai niveau, etc.
Voilà, c'est 8 heures, souvent le week-end. Il y a justement, voilà, comme il expliquait justement Adem lors d'une interview qu'il a pu faire, c'est que souvent il avait assisté et participé à des formations et il n'avait pas cette accessibilité de pouvoir échanger avec justement le formateur. Donc ce que Au Secret Azalée a voulu faire, c'est vraiment donner la possibilité d'avoir 8 heures, mais avec un petit groupe pour que les gens puissent poser le maximum de questions justement au formateur. Et c'est des prix qui sont quand même accessibles. C'est très très accessible quand même.
Alors, Au Secret d'Azalée, merci Bilal, ça se trouve 114 avenue Louis Roche à Gennevilliers.
C'est ça.
L'Instagram, c'est O-8 secret au pluriel -8 D-8 Azalée.
C'est ça.
Je vous fais du morse. Et le site internet, faites plutôt, allez sur Google et tapez
Au Secret d'Azalée. Il y aura toutes les informations, le TikTok, le Facebook. Et voilà.
Allez, cette fois-ci, je l'accorde à Fodil, on fait une pause et on se retrouve juste après. Et on va faire le tirage au sort du jeu concours de dimanche. Allez, à tout de suite.
Chacun son retour revient dans un instant. 16h, 17h, Chacun son retour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Oui, de retour dans Chacun son retour. Alors, ceux qui nous ont écoutés hier dans le tour du monde, on recevait Nina Nafi, qui est propriétaire du restaurant indonésien Jakarta Bali, d'ailleurs où notre ami Bilal est allé il n'y a pas longtemps. Vous aurez la chronique dans Chacun son retour dans pas longtemps.
Franchement, si les gens avaient le coulis de bave là, tellement j'y pensais, tellement c'était bon, c'était trop incroyable.
Ça y est, on l'a converti à la cuisine indonésienne, Bilal. Lui qui est adepte de junk food.
Ouais. Allez, c'était une trop belle expérience.
On l'a assagi. Alors, on avait aussi dans l'émission d'Etigani, de l'ambassade d'Indonésie en France. Et à cette occasion, l'ambassade d'Indonésie a souhaité, comme ça s'est fait au cours de l'émission, elle a souhaité lancer un concours sur Instagram pour faire gagner un iftar. Alors, on dit ni un ftour ni un iftar, d'ailleurs en Indonésie on dit buka puasa, qui veut dire la rupture du jeûne. Donc un iftar pour deux personnes au restaurant, donc au fameux restaurant de Jakarta Bali que tu as pu tester, donc qui est situé dans le quartier des Halles à Paris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un concours qui vous a drôlement séduit, parce que vous avez été plus de 200 à participer sur mon modeste compte Instagram. Mais c'est donc bien. Voilà, on a fait exploser le standard de mon compte Instagram. Donc bravo à vous, mais maintenant il est temps de procéder au tirage au sort pour connaître l'identité du gagnant. Et comme on dit, honneur aux dames, je vais donc demander à Iman d'activer la grande roue des cadeaux de Chacun son tour. C'est à toi, Iman. Attention, le suspense est insoutenable. Et le gagnant, c'est alors Steph. C'est un compte Instagram, StephAna75, donc bravo à elle ou à lui. Alors gagnant, c'est une gagnante. Je vois sur son compte Instagram qu'il s'agit de Stéphanie Anne de Paris. Bravo à toi, Stéphanie. Bravo.
Franchement, félicitations. Tu ne regretteras pas d'avoir gagné ce concours.
Voilà. C'est validé par Bilal. Et Stéphanie, si tu nous écoutes, guette ta messagerie sur Instagram. Tu vas bientôt recevoir un petit message pour pouvoir recevoir ton cadeau. Un super dîner de Ramadan pour deux personnes au restaurant indonésien Jakarta Bali à Paris. Un cadeau offert par l'ambassade d'Indonésie en France. Merci à eux. Merci encore à Stéphanie et merci à tous les autres participants. Et c'est jamais perdu, on va refaire d'autres jeux concours d'ici la fin du Ramadan. Donc restez à l'écoute et
on peut participer.
Non, toi t'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais par contre, Iman, justement, alors que le soleil se couche dans quelques heures et que nos tables se remplissent, peu à peu, c'est l'heure de tendre l'oreille à notre chroniqueuse Iman. Aujourd'hui, elle va nous réveiller avec son style bien à elle et un humour qui pique juste ce qu'il faut sur un thème qui touche tout le monde en ce mois sacré, le gaspillage alimentaire. Iman, c'est à toi.
Merci Manu, j'avais tellement hâte d'aborder ce sujet, car comme tu le sais, pendant ce mois sacré, on voit nos tables se remplir de mille et un délices et nos poubelles de mille et un regrets. Parce que, avouons-le, chaque repas de fête cache souvent ce petit secret un peu sombre, le gaspillage alimentaire. Avant de plonger dans la culpabilité, discutons un peu de ce sujet pas si reluisant de nos célébrations.
Pardon, oui, c'est clair.
C'est pas de
soucis. On peut même pas couper au montage, c'est en direct. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en direct, notre estomac prend tellement le dessus qu'on oublie tout ce qui reste dans le frigo depuis la veille.
Exactement. Imaginez, après avoir jeûné toute la journée, vous vous asseyez pour partager ce moment avec famille et amis. La table est pleine, ça sent bon, tout le monde sourit, mais dans ce festival de goût, un intrus se glisse, le gaspillage alimentaire.
Alors si le gaspillage alimentaire était une discipline olympique, on aurait quelques champions parmi nous, je dois dire.
C'est tellement vrai, que ce soit par excès de nourriture, une mauvaise planification ou juste par habitude, le gaspillage est un invité trop fréquent pendant le Ramadan. Mais derrière chaque assiette laissée, c'est pas juste de la nourriture qu'on perd, mais aussi du sens.
Ah ça oui, chaque grain de riz d'eau jeté, c'est comme un petit coup de poignard dans le cœur de nos grands-mères qui nous rappelaient de ne pas gâcher et de penser aux plus démunis.
Ah, nos grands-mères, elles avaient tout compris, surtout pendant le Ramadan. On est invité à être modéré, à être reconnaissant pour chaque bouchée qui doit être vue comme un cadeau divin. Mais comment respecter cet enseignement quand on finit par gaspiller tant de nourriture chaque année?
Ouais, la modération, c'est cette vieille amie dont on a du mal à se rappeler dès qu'on passe devant un buffet bien garni, n'est-ce pas ça là?
Certains diront que le gaspillage, c'est juste un souci de logistique, un truc inévitable quand on fait la fête. Mais en vrai, c'est aussi une question de conscience. À chaque fois qu'on balance à la poubelle un plat encore à moitié plein, on n'oublie pas simplement le travail qu'il y a derrière, mais aussi le vrai sens de ce mois sacré.
Ouais, autrement dit, mes amis, jeter moins et mieux savourer, c'est simple comme bonjour. Alors pour ça, Iman, est-ce que tu as des idées ?
Bien sûr. Pour contrer ce fléau, il suffit peut-être juste de revenir aux bases. Préférer la qualité à la quantité pour nous aider à retrouver le sens du Ramadan. En étant conscient de notre impact sur l'environnement et nos communautés, nos festins peuvent devenir de réels moments de générosité et de partage.
Bah exactement, Iman, le Ramadan, ça devrait être ça, non ? Un temps pour partager, pour être généreux.
Tout à fait, Manu. Le Ramadan, c'est pas juste un concours culinaire. C'est un temps pour réfléchir, se renouveler et se reconnecter avec notre foi et notre communauté. Si on transforme nos assiettes en symboles de gratitude et de modération, alors nous pourrons vraiment célébrer ce mois béni avec un cœur léger et un estomac plein.
Eh ben oui, merci Iman pour ce rappel bien nécessaire et surtout drôlement bien tourné. J'espère que tout le monde prendra note et passera à l'action. Alors maintenant, grâce à toi, on peut continuer notre émission L'Esprit et l'Assiette un peu plus éclairée. Mais on va revenir à nos chroniques food.
Hein, avec plaisir.
Même si c'était un peu en rapport avec la food. Alors en vitesse, parce que c'est vrai qu'on est très en retard sur le programme et il faut qu'on ait le temps aussi de revenir deux secondes à Julien. Donc Salah, tu vas nous parler d'une pizzeria napolitaine de derrière les fagots. Ça s'appelle Pomozza.
Ouais ouais. En fait, plus qu'une pizzeria, c'est un vrai restaurant puisqu'il propose aussi des pâtes.
Mais c'est vrai que il y a peu de choix au niveau des pâtes, mais c'est vraiment des trucs
Tout est fait maison,
du peu mais du bien.
Exactement, ouais, tout à fait. En fait, tout est fait maison, ça s'appelle Pomozza, c'est situé à Bourg-la-Reine. C'est un super resto italien, franchement, sans vouloir faire de trop.
Oui, ils t'ont pas payé.
Selon moi,
c'est
pas du tout. Selon moi, c'est les meilleures pizzas en tout cas que j'ai jamais mangé. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est un vrai chef napolitain en fait qui est derrière les fourneaux. Ils ont un vrai four traditionnel également italien. Et surtout, en fait, ils vont utiliser de la charcuterie qui provient de la boucherie des Jumeaux. Je trouve que c'est quand même un gage de qualité. Et donc, on retrouve vraiment
toute leur viande aussi, hein, toutes les viandes. Hein.
Exactement.
Toute leur viande.
C'est assez rare hein, quand même pour un restaurant parce que c'est vrai que la boucherie des Jumeaux c'est premium, mais c'est assez cher quand même. Donc
donc vous attendez pas à la pizza à 5€.
Non. Après, les pizzas en termes de prix,
oui, elles sont à des prix raisonnables.
Elles sont des prix raisonnables, franchement. Mais moi, je mets vraiment l'accent plus sur le côté charcuterie parce qu'ils proposent et des plateaux de charcuterie et des pizzas aussi très originales dans la plus pure tradition vraiment napolitaine.
Ouais. Alors justement, hein, pour nos auditeurs, hein, la pizza napolitaine, pour la distinguer de la pizza qui est plutôt romaine, c'est la pizza, c'est ma préférée, fine et croustillante. Hein.
Exactement.
C'est pas la pizza épaisse qui est croustimouelleuse.
Non. C'est la pizza fine.
C'est la vraie. Pour moi, la seule, l'unique.
Exactement,
hein.
avec les grosses bordures justement qui vont venir souffler justement dans le four. Et également, moi j'aime beaucoup parce qu'il a pas mal de recettes très originales avec des bases, tomates, base crème fraîche, mais il a aussi une base avec de la tomate jaune. Je sais pas si tu connais.
Oui.
C'est vraiment original. Et il fait également les poules pétées depuis peu. Et les poules pétées, franchement.
Ah, ça, c'est j'adore les poules pétées, les petites boulettes de viande à la sauce tomate.
C'est magnifique.
Et la pizza star là-bas, hein, en deux secondes, je suis obligé d'en parler parce que c'est la pizza que les clients préfèrent, c'est la pizza à la truffe là-bas.
Exactement.
Hein. La pizza tartufo, là, elle marche bien.
Ça, c'est le classique.
Bon, alors, c'est 126 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Pomozza, P-O-M-O-2-Z-A. Vous les trouvez sur Instagram, pomozza-du-8 officiel ou pomozza.com.
C'est une enseigne toute rose, on peut pas les rater.
Oh, c'est mignon. Bon, on va rappeler, hein, si vous voulez du foie gras, pas seulement pendant les fêtes, hein, maintenant vous pouvez avoir du foie gras toute l'année avec Julien Durand, maître foie gras, et d'ailleurs vous cherchez maître foie gras sur Instagram, vous le trouvez. Et juste Bilal, en dehors de Womog, vous avez monté une petite agence de com et vous aidez les gens à se développer sur Instagram, etc., et principalement dans la food.
Oui, c'est ça, c'est une agence qui s'appelle Agency, justement, qui a pour but de faire les sites internet et aussi de gérer la communication. Enfin, la com de toutes les personnes qui ont des restaurants, peu importe le...
Et on vous trouve sur Instagram, Agency.
Ou agency.fr.
Super, voilà. Il nous reste 4 secondes, donc juste le temps de vous dire que vous retrouvez Philippe Robichon pour Ramadan & Co. Il rentre dans le studio à l'instant d'ailleurs, Philippe Robichon avec ses invités pour Ramadan & Co. Restez à l'écoute de Beurre FM, on vous embrasse.
Bye bye.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.